Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'alcool est un anesthésique qui permet de supporter l'opération de la vie, aurait lancé l'écrivain irlandais George Bernard Shaw. Si elle fait sourire, cette expression reflète également l'état d'esprit de l'opinion publique à l'égard de l'alcool en France, une sorte d'art de vivre qui vaudrait bien quelques verres, quitte à ce qu'il y en ait un peu trop. Pourtant, qui ne s'est pas un jour senti mal à l'aise avec cette idée si largement répandue en croisant une personne lourdement alcoolisée, ou plus encore en ayant parmi ses connaissances ou proches quelqu'un que l'on sait être gagné par l'alcoolisme. Une maladie comme une autre, diront certains, une maladie qui est la deuxième cause de mortalité en France, réalité mal connue qui dit à elle seule ce qui se joue autour de l'alcool. Cette émission Vivante Église ce matin, donc alcoolique, que vivent-ils, avec autour du plateau, on va commencer par téléphone, Thomas Wallenhorst, qui est psychiatre et psychothérapeute, auteur de L'alcoolodépendance en clair, paru aux éditions Ellipse. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, décidément, vous étiez déjà en plateau il y a presque 10 jours. En ce moment, quel succès. Et merci en tout cas. Autour du plateau, il y a aussi Christophe et Dominique, qui sont membres des Alcooliques Anonymes. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Et le père Joseph Bécoc, qui est membre de l'association Vie Libre, donc autre association qui accompagne des personnes atteintes d'alcoolisme, et curé du Mirail Lafourguette pour le diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Approchez-vous bien du micro. Alors, on va commencer avec vous, Thomas Wallenhorst. Je voudrais qu'on essaie d'abord de situer un peu, quelle est la réalité de l'alcoolisme en France. Je citais ce premier chiffre, deuxième cause de mortalité en France. C'est vrai que c'est un chiffre, moi qui suis journaliste depuis quelques années maintenant, je ne l'avais jamais entendu, alors peut-être que je ne lis pas assez. Ça serait à peu près 10% de la population française et 49 000 morts par an. Est-ce que vous avez quelques chiffres ou quelques commentaires sur cette réalité sociologique ?
Oui, 49 000 morts par an, effectivement, et ce sont des morts prématurées. Hein. Au niveau des chiffres, on estime qu'il y a 5 millions de Français qui ont un problème avec l'alcool, dont 1,5 million de personnes qui sont alcoolodépendantes. Alors, l'alcoolodépendance, c'est une maladie qui s'installe progressivement par la consommation abusive du produit alcool. Et effectivement, ça peut très facilement piéger les personnes si effectivement on consomme quelque chose à table parce qu'on a envie de se faire plaisir, ou si on consomme quelque chose parce qu'on n'a pas trop le moral, parce qu'on veut se faire du bien. Si ça devient une habitude régulière, effectivement, on peut glisser tout doucement vers la pente de l'alcoolodépendance.
Alors moi... Pardon, j'avais encore un ou deux autres chiffres à citer, peut-être que d'autres peuvent les commenter. J'ai noté que c'était 1/5 des divorces en France qui seraient dus plus ou moins à une cause d'alcoolisme, et que une déchéance paternelle sur deux serait due aussi à l'alcoolisme. Oui. Est-ce que parmi tous les gens que vous voyez venir, les patients, souvent vous voyez ce type de réalité ?
Oui, tout à fait. Les personnes viennent en consultation parce qu'ils ont une situation de rupture de couple, par exemple. On peut dire aussi que l'alcoolodépendance est à l'origine... quand il y a des personnes qui ont subi des abus sexuels, 50% de ces personnes-là vont entrer dans une dépendance par rapport à un produit psychoactif. Ça peut être une drogue, ça peut être de l'alcool, mais on doit dire que la drogue la plus dangereuse, c'est l'alcool. Hein. C'est elle qui tue le plus de personnes par rapport au pourcentage des consommateurs.
Père Joseph Bécoc, vous avez un commentaire ?
Alors moi, je voulais ajouter autre chose. Pour l'avoir fréquenté beaucoup pendant pas mal d'années, j'étais aumônier de prison. En prison, c'est épouvantable le nombre de personnes qui arrivent pour avoir commis des actes dans un état alcoolique. Et je crois qu'on comptait 30 à 40% du personnel, c'était la prison d'Angoulême, des détenus qui étaient atteints par la dépendance alcoolique.
Alors, pour finir avec les chiffres, on va passer l'émission à citer des chiffres, mais cette fois, c'est sur le site de Vie Libre. Vous citez ce chiffre. À propos de l'alcool, il y aurait en fait les bons et les mauvais. C'est en tout cas comme ça que vous présentez. 92% en fait de la population, on va dire, vivrait avec l'alcool de manière à peu près sereine. 65% auront une consommation heureuse. 20% excessive. 7% d'abstinents. Et puis il y aurait les 8% de mauvais. Pourquoi vous faites cette distinction, Père Bécoc, sur le site de Vie Libre ? Qu'est-ce que ça signifie, cette mise en perspective bon et mauvais ?
Je pourrais donner quelques...
Alors pardon, allez-y. Et puis après, on laissera parler le père Bécoq. Allez-y, Thomas Van Horst. Allez-y. Thomas Van Horst, allez-y.
Oui, d'accord. Donc, je peux donner quelques recommandations. L'Organisation mondiale de la santé donne des recommandations. Par exemple, ne pas dépasser 4 verres standards en une seule occasion. Donc, une occasion, ça peut être, par exemple, un repas de fête, ça peut être une communion, ça peut être un mariage, et on y arrive très vite, effectivement, aussi, ces 4 verres. L'Organisation mondiale de la santé recommande aussi à avoir au moins un jour par semaine où on ne consomme pas. Donc, les chiffres décrivent donc le développement de l'alcoolodépendance ont été vus à la baisse, c'est-à-dire c'est 14 unités, c'est-à-dire 14 verres par semaine. Autrefois, on séparait entre les hommes et les femmes, donc on ne sépare plus entre les hommes et les femmes. On ne dit plus 21 verres pour un homme, donc c'est ce qui était encore valable jusqu'à il y a quelques années. Maintenant, on dit 14 verres par semaine pour hommes et femmes, tout confondu. Et pour les personnes âgées, c'est 7 verres par semaine. Donc la consommation est encore abaissée. Et je crois que chacun peut s'appliquer à lui-même des règles de fonctionnement. Je peux consommer de façon modérée et effectivement il est important pour la bonne santé, c'est-à-dire de s'imposer au moins un jour de non-consommation par semaine.
Alors donc là en fait vous êtes venu à la deuxième question que je voulais aborder avec vous, c'est à partir de quand en fait on peut considérer qu'on est pris dans l'alcoolisme. À vous entendre en fait, donc je reviendrai à ma question plus tard Père Bécoq, on est très très loin des fameux deux verres en fait. Aujourd'hui d'une certaine manière au regard de la loi ça serait ça. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire sur ce sujet, Thomas Van Horst?
À moi, Thomas,
Oui, à vous cette fois, c'est à vous, Thomas Van Horst.
Oui, effectivement, les chiffres ont été vus à la baisse parce qu'on a vu que l'alcoolodépendance se développe de manière progressive et beaucoup plus facilement qu'on avait pensé encore il y a quelques années. Hein.
Est-ce que de fait, dans vos consultations, vous voyez, par exemple, vous voyez beaucoup de jeunes, j'ai pas trouvé les chiffres concernant les jeunes, mais c'est assez connu que l'alcoolisme serait assez répandu chez les jeunes. Est-ce que vous avez quelques éléments là-dessus?
Oui, nous voyons des jeunes inférieurs à 20 ans qui sont déjà alcoolodépendantes. Et vis-à-vis des jeunes, on peut dire les ivresses, c'est quelque chose de très dangereux. S'il y a par exemple 2 ivresses par an pour des jeunes inférieurs à 15 ans, 50% de ces personnes-là seront alcoolodépendantes s'ils continuent avec ce comportement. Donc
simplement 2 par an, c'est ça?
Simplement 2 ivresses par an pour les inférieurs à 15 ans, parce que c'est un cerveau en état d'immaturité, le cerveau s'en souvient et le cerveau signale j'aime ces effets et je voudrais en consommer davantage.
Alors là, vous nous avez dit en fait à partir de quand. J'aurais juste une autre question qui fait un peu écho à comment dire sur ces chiffres, qui fait un peu écho à mon introduction. Je disais en fait, on va dire dans la culture française, consommer de l'alcool, ça n'est pas vu comme une pente glissante. Est-ce que vous diriez, je voyais des expressions comme ça en préparant l'émission, qu'il y a une forme de culture de l'ivresse, une forme de valorisation quelque part d'une ivresse soft dans la culture française. Est-ce que vous trouvez que c'est le cas, vous qui êtes médecin, et est-ce que quelque part ça fait barrage un peu à votre activité ou à une prise de conscience collective?
Oui, il y a beaucoup de recommandations, il y a beaucoup de représentations. Par exemple, la culture de la virilité, par exemple. Mais au niveau de la culture de la virilité, les femmes consomment aujourd'hui comme des hommes. Hein, et alors qu'autrefois, les femmes contrôlaient les hommes et limitaient la consommation des hommes, ce n'est plus le cas. Et c'est très problématique parce qu'hommes et femmes ne sont pas égaux devant l'alcool. Les femmes développent la maladie beaucoup plus tôt que les hommes. Chez les hommes, la maladie peut se développer en 15 ans. Chez les femmes, ça va beaucoup plus vite. En 5 ans, la maladie se développe. Et pour que quelqu'un vienne en consultation, en moyenne, il y a 15 ans avant que les personnes ne viennent en consultation, c'est-à-dire la prise de conscience d'être dépendant est aussi quelque chose de très progressif. Et pendant très longtemps, les personnes hésitent pour consulter et surtout de se considérer comme quelqu'un qui a peut-être un problème avec l'alcool.
Alors enfin, avant qu'on fasse une première pause, je voulais que vous nous décriviez un peu quelles en étaient les conséquences. Peut-être qu'en plateau, tous ceux qui sont présents ici et qui ont une bonne connaissance de cela pourront commenter. Je m'étais noté, peut-être, je ne sais pas s'il y a plusieurs étapes, mais peut-être quand on est plus libre quelque part de consommer, et puis après, quelles sont les conséquences physiologiques et psychologiques, voire psychiatriques en fait, de l'alcoolisme.
Les conséquences, c'est déjà de constater qu'on a du mal pour se limiter. Ce sont des personnes qui vous disent, pendant une consultation par exemple, autrefois je pouvais bien arrêter, maintenant une fois, quand je suis avec des amis, je n'arrive plus à limiter ma consommation. Donc, ou quand il y a une bouteille qui est finie, donc j'ai envie d'ouvrir une autre bouteille. Quand on a envie d'ouvrir une autre bouteille, on doit vraiment s'interroger, est-ce qu'on n'est pas en train de franchir la porte vers l'alcool?
Ensuite, quels sont les troubles physiques et pour essayer de comprendre en fait quand on n'a pas été quand on ne l'est pas soi-même physique ou psychologique.
Les troubles physiques, c'est par exemple des tremblements, c'est des vomissements le matin, c'est des cauchemars la nuit, c'est des crampes au niveau des mollets, ce sont des signes d'imprégnation. Hein. Mais d'autres signes, c'est les problèmes au niveau du foie. Nous voyons des jeunes inférieurs à 20 ans qui ont déjà une cirrhose hépatique. Donc plus tard, ce sont des troubles cardiaques. Vers 30 ans, on peut avoir des troubles cardiaques. Et plus tard, vers 40 ans, on peut avoir une démence s'installe. C'est-à-dire une perte des fonctions intellectuelles, une perte au niveau de la mémoire.
Et est-ce qu'il peut y avoir des conséquences psychiatriques? J'ai lu qu'on pouvait être atteint de délire, de vision, de...
Les conséquences psychiatriques, c'est déjà une dépression, parce que l'alcool, c'est un produit qui induit des dépressions, c'est des suicides aussi, des attentats aux mœurs, parce qu'il y a une désinhibition. On a dit aussi que le surmoi est soluble dans l'alcool, et l'alcool est très souvent utilisé aussi avant de commettre un délit, et surtout les morts sur la route, la moitié des morts sur la route sont provoquées par la consommation d'alcool.
Eh ben merci beaucoup Thomas Van Horst de ce premier tableau qui nous aide un peu à situer les choses. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc L'alcoolodépendance en clair, paru aux éditions Ellipse. Et vous me disiez en préparant l'émission qu'en fait cet ouvrage était en rupture de stock et vous alliez en publier prochainement,
En fait, j'ai écrit en 2006 un premier livre qui s'appelle L'alcoolodépendance, un chemin de croissance. C'est ce livre-là qui est en rupture de stock, et il y a un livre qui est en préparation qui va paraître, je crois, au mois de mars 2018, qui s'appellera L'alcoolodépendance en clair.
Ah voilà, bah, vous voyez,
en clair.
Il est déjà vendu aux éditions, en tout cas vendu comme tel aux éditions Ellipse. En tout cas, comme ça, les auditeurs ont découvert que je n'avais pas pu lire cet ouvrage puisqu'il n'est pas encore paru. Bref, c'est une exception, rassurez-vous, chers auditeurs. On va faire une première pause et on va retrouver nos invités pour parler de ce thème de l'alcoolisme. Thank you.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, donc Alcoolique, que vivent-ils ? Avec, je vous rappelle, si par hasard vous prenez cette émission en cours de route, Thomas Vallenhorst, qui est resté un peu avec nous, psychiatre et psychothérapeute, et donc auteur d'un futur livre intitulé « L'alcoolodépendance en clair » paru aux éditions Ellipse, Christophe et Dominique qui sont membres des Alcooliques Anonymes, et le père Joseph Bécoc, qui est donc curé du Mirail La Fourguette, dans le diocèse de Toulouse, et membre de l'association Vie Libre. Alors dans cette deuxième partie, avant qu'on voit comment on peut accompagner les personnes qui sont alcooliques et puis leur entourage, j'aurais juste aimé vous demander un commentaire à propos des jeunes, parce que je suis tombé sur un article du Monde décrivant et disant que l'ivresse était de plus en plus parfois précoce. Thomas Vallenhorst disait que donc deux, on va dire, cuites en langage vulgaire et courant par an pour des enfants de moins de 15, des adolescents de moins de 15 ans, c'était très problématique, et que en fait la population la plus touchée en France serait les étudiants. Est-ce que c'est vos retours de vos réalités associatives? Est-ce qu'il y a des étudiants qui toquent à la porte des Alcooliques Anonymes? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Christophe ou Dominique? Pas d'étudiants chez vous?
Non, très très peu. Les premières personnes qui viennent aux Alcooliques Anonymes ont déjà au minimum une trentaine d'années.
Joseph Bécoc, pareil chez vous, c'est...
Alors non, il n'y a pas de jeunes non plus, mais ce que je peux dire, mais ça c'est une expérience personnelle que j'ai faite. Donc moi je suis à Vie Libre, je suis abstinent volontaire depuis 40 ans et j'ai vu tout ce phénomène de l'alcoolisme évoluer quoi. C'est-à-dire par exemple les femmes sont beaucoup plus atteintes ou au moins le dévoilent, peut-être qu'avant elles le cachaient, et les jeunes sont de plus en plus atteints. La preuve c'est que ça je le connais aussi, il y a deux catégories. Il y a plusieurs catégories d'alcooliques, mais il y a deux qui sont très, très marquées, ce qu'on appelle les dépendants excessifs, c'est-à-dire qui boivent sans arrêt, quoi, hein. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les dépendants, par période et... cyclique, c'est-à-dire il y a des jeunes qui peuvent rester 3 semaines, 1 mois sans boire, mais dès qu'ils remettent le nez dans l'alcool, c'est parti, quoi. Ils ne peuvent plus s'arrêter. Et c'est ce qu'on appelle les dépendances cycliques.
Alors juste Thomas Vallenhorst, sur cette question des jeunes, avant qu'on aille plus loin, est-ce que vous avez peut-être un éclairage? En fait, c'est quoi? Il faut un temps pour se rendre compte qu'on est alcoolique et du coup aller à toquer à la porte des associations? Comment est-ce qu'il pourrait à la fois être une des populations les plus exposées et concernées et ne pas être présent dans les associations?
Souvent, des jeunes ne réalisent pas qu'ils ont déjà un problème, qu'ils sont déjà touchés par la maladie. Déjà, la conscience que l'alcoolisme, c'est une maladie, n'a pas encore pénétré toute la population. Parce que ça fait partie des représentations aussi, quand on consomme, on doit pouvoir se contrôler. Mais c'est justement la définition de cette maladie, parce qu'on a perdu le contrôle de la consommation par cette maladie. On doit dire aussi que la consommation massive, ce qu'on appelle, comme les Anglais, le binge drinking ou les bitures express, c'est effectivement quelque chose de très dangereux. Et je crois que s'il y a un message à donner, c'est faites attention, arrêtez-vous avant l'ivresse. Ne cherchez surtout pas à tomber dans l'ivresse et surtout pas dans la consommation désordonnée d'alcool. Donc c'est vraiment un message à donner. Hein.
Alors maintenant parlons accompagnement. Donc on va commencer avec les Alcooliques Anonymes, qui est quand même l'association peut-être la plus connue sur ce sujet. J'ai vu en préparant l'émission, donc c'était un nombre considérable puisque vous étiez présent un peu partout dans le monde. Il y a 2 millions de membres, plus de 115 000 groupes donc, qui accompagnent ces personnes ou pour des personnes concernées. Voilà, donc c'est des chiffres qui laissent sans voix, en tout cas qui dit l'importance de votre association. Est-ce qu'il y a des grandes étapes? Alors, je connais un peu la réponse parce que vous m'en avez parlé pendant la pause, mais je la repose quand même. Est-ce qu'il y a des grandes étapes dans la prise de conscience ou le soin? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a la prise de conscience, la cure, et puis après, il faut veiller à l'accompagnement post-cure? Est-ce que c'est un schéma, on va dire, global, mais même s'il y a après des exceptions? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Christophe?
Enfin, c'est difficile de faire enfin, pour moi en tout cas, c'est difficile de faire des généralités. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, si vous prenez 1000 alcooliques, vous aurez 1000 témoignages différents. Et 1000 façons de s'arrêter de boire. Donc c'est difficile de faire une généralité. Moi, je sais que pour ma part, je suis passé par une cure de sevrage, mais entre guillemets, j'ai fait ça pour faire plaisir à ma famille. J'y suis pas allé convaincu. J'en suis ressorti, j'étais abstinent depuis 3 semaines. Tant mieux pour moi. Mais derrière, quand je suis rentré chez moi, qu'est-ce que je fais? Et je suis rentré chez moi, j'étais face à ce problème-là. C'est-à-dire que
oui. C'est bien ce que j'ai essayé de distinguer, prise de conscience, cure et post-cure. Voilà, c'est-à-dire pour dire ça. Que c'était...
Moi, je n'avais peut-être pas forcément pris conscience, avant d'aller en cure, que j'avais vraiment un gros, gros problème avec mon alcool et que de toute façon, je ne pourrais pas m'en sortir comme ça tout seul.
Alors, Père Bécoque, qu'est-ce qu'on dit du côté de Vie Libre sur les grandes étapes avant qu'on rentre dans le détail?
Oui, dans le mouvement Vie Libre, à chaque fois qu'on fait une rencontre, en faisant un tour de table, chacun dit... Pourquoi il a pris cette décision, quoi. S'il l'a prise, pas toujours, hein, mais s'il l'a prise, pourquoi il l'a prise? Et là, je dirais comme Christophe...
C'est-à-dire la décision de rejoindre l'association ou la
décision... De rejoindre l'association et de se faire soigner et puis d'essayer de s'en sortir, quoi, de guérir. Et si on est 20, il y aura 20 réponses différentes. Les motivations des uns et des autres ne sont jamais les mêmes, vous voyez.
Alors ma question n'était pas tant sur les motivations, mais sur le processus pour aider à prendre conscience qu'il ne suffit pas un jour de se réveiller le matin et de se dire je voudrais être guéri ou d'avoir une prise de conscience. Qu'est-ce que vous ajouteriez peut-être sur cette question introductive, Thomas Vanhoorst? Est-ce qu'il y a des étapes clés qu'il faut avoir en tête quand on est soi-même concerné ou quand on est un proche? Avant qu'on rentre dans le détail.
Alors, au niveau de la prise de conscience, c'est-à-dire, on peut être conscient qu'on consomme trop, mais ça ne veut pas encore forcément dire qu'il faut arrêter. Hein. Les personnes peuvent chercher à réduire la consommation. Si on est encore du côté du buveur excessif, on peut effectivement revenir à une consommation modérée. Mais si on a franchi la porte vers l'alcoolodépendance, là, on ne peut plus revenir à une consommation normale, parce que la dépendance est là et les personnes ressentent au fond d'elle-même quelque chose qui les pousse à consommer et à rechercher la boisson.
Alors sur la deuxième étape, est-ce que ça passe toujours par une cure? Est-ce que c'est une étape obligatoire d'une certaine manière ou qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
En fait, ça peut être un sevrage. Hein, et donc je rencontre beaucoup de personnes qui me disent j'ai besoin d'un sevrage, ou quelquefois ce sont des personnes qui ont déjà eu un sevrage et ils ont repris la consommation. Ils me disent j'ai besoin de refaire un sevrage. Et dans ce cas-là, nous pouvons faire un sevrage dans un service qui est spécialisé au sein de notre unité de psychiatrie, où nous faisons des sevrages entre 7 et 10 jours. Et après, les personnes, on leur propose un suivi dans le cadre de la consultation hospitalière d'addictologie, où il y a aussi la possibilité de participer à un groupe de parole. Donc chaque semaine, nous avons un groupe de parole où nous parlons d'un aspect particulier en lien avec la problématique d'alcool.
Alors, ça c'était peut-être pour la question introductive. Maintenant, venons dans le vif du sujet, donc du côté des alcooliques, donc en tout cas des alcooliques anonymes. Donc il y a des fraternités, si j'ai bien compris, enfin en tout cas des groupes. Est-ce que vous nous expliquez comment ça se passe? J'ai cru comprendre que donc c'était assez typé. Alors je ne sais pas si vous, à chaque fois on passe par ces 12 étapes, mais qu'en tout cas il y avait comme une forme de parcours qui était proposé dans cette prise de conscience, cet accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous décrire ça, s'il vous plaît, Christophe?
C'est-à-dire qu'en alcoolique anonyme, il y a un programme de rétablissement qui est proposé. je dis bien proposé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de, d'obligatoire, tout est suggéré en Alcoolique Anonyme, et après on est là pour écouter et pour partager nos expériences.
Alors quelles sont les grandes étapes de cette...
Il n'y a pas franchement d'étapes, entre guillemets. Il y a un programme avec 12 étapes, ça c'est une chose.
Alors sans nous décrire les 12, quelles sont les grandes étapes?
Si vous voulez, il y a 12 étapes, et sur 12 étapes, il n'y a qu'une demi-étape qui parle d'alcool. Tout le reste parle de nous, en fait. Et on est là justement pour parler de nous, pour parler de ce mal-être qu'on pouvait avoir en nous, puisqu'en fait, quand on parle de l'alcoolisme, on parle de la partie immergée de l'iceberg. Mais après, c'est tout le reste, en fait, qu'il faut venir soigner, en fait. On parle de soigner aussi bien le corps, l'esprit et l'âme. Donc, c'est pour ça qu'on parle de nous d'abord, et l'alcool n'est que la partie immergée de l'iceberg, quoi. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une demi-étape qui parle vraiment de l'alcool, où on dit justement... qu'on était devenu impuissant devant l'alcool. Quoi.
Alors je citerai ces étapes du coup. Je vous ai apporté une antisèche. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool et que nous avions perdu la maîtrise de nos vies. Nous sommes venus à croire qu'une puissance supérieure, ça on reviendra peut-être après, à nous-mêmes, pouvait nous rendre la raison. Mais peut-être avant de rentrer dans ce détail, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie sur ce sujet. Nous étions tout à fait... Il y a souvent Dieu. J'ai essayé de trouver les passages qui ne concernent pas Dieu, donc on va arriver à cette question-là. Nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu éliminât tous ses défauts de caractère. Bref, on sent bien qu'il y a un travail, comment dire, de décision, d'introspection, de travail sur soi, etc. Et donc, puisque c'est cité et que je n'arrive pas à ne pas le citer, il y a de fait chez les alcooliques anonymes la référence à Dieu ou en tout cas à un être supérieur. L'impression que vous vous mettez en fait tout de suite sous le regard de quelqu'un. Alors moi, ça m'a beaucoup surpris. Vous dites que c'est pas religieux, mais c'est plutôt spirituel. Il y a même une prière. Racontez-nous
ça. Si vous me le permettez, c'est Dieu tel que chacun le conçoit. Tout le monde oublie que chacun. Moi, je suis athée. Donc j'ai pas de Dieu, mais pour que le programme des Alcooliques Anonymes fonctionne pour moi, c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu en avant, sur l'alcoolisme, il y a autant d'alcoolisme que d'alcooliques. Donc effectivement, ça rejoint ce que disait Christophe tout à l'heure sur les 1000, hein, est-ce que confirmer le... Voilà. En ce qui concerne cette question que tout le monde se pose, l'aspect spirituel... du programme.
Avant de nous dire ce que vous en pensez ou la manière dont vous l'avez vécu, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment ça se passe? Parce qu'une fois de plus, on est là pour essayer de décrire à ceux qui ne sont pas concernés.
Alors moi, je vais vous raconter comment ça se passe.
Donc il y a une prière.
Quand je suis arrivé aux Alcooliques Anonymes, j'ai failli faire demi-tour. Parce que effectivement, le premier mot qui existe dans ce texte qu'on appelle une prière, c'est le mot Dieu. Et moi, pour moi, ça ne pouvait pas fonctionner. Et ça a fonctionné. Aussi étrange que ça puisse paraître.
Alors, à quoi ressemble cette prière? Peut-être que vous la connaissez vous-même par cœur, non?
On la connaît par cœur. Si vous...
Dites-la nous, alors.
C'est « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. D'accepter les choses que je ne peux changer.
Courage de changer les choses que je peux. » Et la sagesse d'en connaître la différence.
Alors pourquoi est-ce qu'il y a, peut-être historiquement, pourquoi il y a cette prière, et puis surtout qu'est-ce qu'elle signifie ou qu'est-ce qu'elle permet de déclencher dans le processus de guérison?
Pour moi, cette prière, en fait, d'abord pour la resituer historiquement, elle est attribuée à Marc Aurèle. Et en fait, c'est un texte qu'il avait écrit.
Empereur romain.
Oui, qui date d'avant Jésus-Christ. Qui n'est pas tout à fait écrit comme ça, mais bon, le grosso modo, les 95%, c'est ça. Pour moi, c'est résumé plutôt la façon dont on vit aujourd'hui. Ce qu'on oublie souvent de dire, en Alcoolique Anonyme, on nous appelle le peuple des 24 heures. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, moi, je vis pour aujourd'hui. Il y a deux jours dans la semaine que je ne devrais pas me préoccuper, c'est hier et c'est demain.
Ah, mais expliquez un peu plus cette pédagogie, parce que ça paraît simple pour vous, mais c'est-à-dire que donc vous, chez les Alcooliques Anonymes, c'est en gros, pendant 24 heures, je ne bois pas, c'est ça?
C'est ça.
Et après, je pense à demain.
Voilà. Et c'est-à-dire que tout homme ou toute femme est capable de mener, entre guillemets, moi j'aime pas ce mot, mais entre guillemets, un combat pendant 24 heures. Et après, je re-signe mon contrat pour 24 heures de plus. Mais je m'arrête de boire pour 24 heures. Demain, je sais pas de quoi il est fait. Hier, j'aurais beau ressasser, ça ne changera rien. Donc juste à me consacrer à mes 24 heures d'aujourd'hui.
Donc, si j'ai bien compris, chez les Alcooliques Anonymes, donc il y a ces groupes. Vous arrivez, en fait, vous décidez en fait, à faire un travail sur vous-même. Mm-hmm. Il y a donc cette prière qu'on prend comme spirituelle ou religieuse, etc. Et puis, il y a la règle des 24 heures. Qu'est-ce que vous présenteriez comme... comment vous continueriez de présenter, dire, il n'y a rien d'autre, tout est dit là-dedans, ou est-ce qu'il faut ajouter quelque chose?
Juste ne pas prendre le premier verre pendant 24 heures. Parce qu'on sait très bien que c'est le premier verre qui, de toute façon, va enclencher tout le reste. Et après, derrière, sans verre, il n'y en a pas assez. Donc voilà, c'est ne pas prendre le premier verre pour 24 heures.
Alors, je vais vous titiller un peu, parce qu'en bon élève, du coup, j'ai lu les 12 étapes pour vous rafraîchir la mémoire. Il y en a une qui m'a posé question. Nous avons réparé nos torts directement envers ces personnes, donc les personnes à qui on a porté préjudice, dans la mesure de notre possible, sauf lorsque, ce faisant, nous risquions de leur nuire ou de nuire à d'autres. Est-ce que ça, c'est une étape importante d'arriver à rétablir les relations, peut-être qui ont été blessés ou les gens à qui on aurait pu causer du tort? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet, Dominique?
Pour vous répondre, elles sont toutes importantes. Toutes.
Je sais bien, mais comme je les cite à votre place, alors, répondez au moins à celles que je cite.
Cette neuvième étape permet, ni plus ni moins, de faire amende honorable et bien évidemment d'éviter pour cela de faire du tort à d'autres. Par exemple, si moi j'ai couché avec la femme de mon meilleur ami, je ne vais quand même pas aller faire amende honorable pour déclencher quelque chose qui, ou alors à l'inverse, si par exemple j'ai augmenté mes notes de frais auprès de mon patron, je ne vais quand même pas exagérer une situation qui me permettrait d'être foutu à la porte et par rapport à ma famille.
Alors prenez un exemple positif, une fois où la réparation aide à la reconstruction, si vous deviez prendre un exemple. Alors,
moi, je peux vous donner mon exemple. J'ai été faire l'amende honorable auprès de la compagne avec qui je vivais à l'époque où j'étais dans l'alcool. Et c'est quelque chose qui s'est très très bien passé. C'est-à-dire que cette personne croyait qu'elle était la dernière des personnes, que tout le monde... Parce que bien sûr, moi j'avais raconté ma version à ma famille, donc bien sûr ma famille l'a rejetée, et tout le monde l'a rejetée. C'était elle la pire, c'était elle, parce que moi j'étais alcoolique, manipulateur, et que j'avais raconté ma version. Et que bien sûr j'avais fait croire à tout le monde ma version. Et donc bien sûr, le jour où j'étais lui faire amende honorable, cette personne... elle s'est sentie soulagée.
Et vous,
libérée
d'un poids.
Et moi aussi. Moi aussi, libérée d'un poids. Parce que quelque part, je portais, sans le savoir exactement, mais je portais cette espèce de culpabilité en moi où je me disais, qu'est-ce que j'ai pu lui faire vivre à cette personne? Et elle avait aussi cette culpabilité de disant, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au monde pour mériter ça, quoi, entre guillemets.
Alors, si on doit comparer, comparaison n'est pas raison, dit l'adage, vie libre avec les alcooliques anonymes, qu'est-ce que vous ajouteriez, Père Joseph Bécoq, quant à la méthodologie? Alors là, j'ai pas d'antisèche, donc j'espère que vous avez révisé.
Oui, tout d'abord, donc, le mouvement vie libre n'est pas spirituel, même si je suis prêtre, moi, mais je suis là en tant que citoyen, d'abord en tant que personne, parce que j'ai rencontré des personnes de tous bords qui ont connu cette difficulté de l'alcool et que j'ai essayé d'accompagner, quoi. Mon rôle à moi, c'était l'accompagnement.
Hein. Alors, on y reviendra sur vos témoignages à la fin de l'émission. Oui. Sur la méthode, est-ce qu'il y a des choses différentes? Qu'est-ce que vous pourriez préciser?
Oui, nous, on n'a pas de règles, si vous voulez. Moi, quand je rencontre quelqu'un, que ça s'est passé la semaine dernière, je l'ai invité à venir à des rencontres du mouvement qui ont lieu deux fois par mois, pas loin d'ici d'ailleurs, le samedi après-midi. Donc je l'ai invitée à venir. Elle a pu exposer son problème et dans ces rencontres, qu'est-ce qui est fait? C'est-à-dire, c'est savoir un peu quel est le désir vraiment de la personne, quoi, si elle veut aller jusqu'au bout et... si aussi elle peut faire une cure ambulatoire ou se soigner sans être hospitalisée, ou alors est-ce que il est préférable de faire une cure en milieu hospitalier? C'est à voir avec elle.
Thomas Wallenhorst, peut-être avant qu'on fasse une deuxième pause, en fait, à entendre nos invités, on a l'impression que le principal est de se mettre en route, de trouver des gens pour vous accompagner, et qu'en fait le reste est... Et comment dire, le reste tombe sous le sens. Alors, est-ce que c'est le retour du médecin?
Alors, je voudrais dire, il faut être convaincu que l'alcool n'est plus bon pour soi. si on est convaincu que, qu'on doit s'abstenir, et après, il s'agit de faire chaque jour un pas. Et, je cite très souvent des alcooliques anonymes avec la règle des 24 heures. Je décide aujourd'hui de ne pas consommer pendant 24 heures. Et nous invitons les personnes à vivre cette règle parce que c'est une règle de bon sens. Pour moi, il est important de regarder par rapport à toutes les difficultés que quelqu'un peut avoir, quel peut être le pas suivant qui permet d'avancer, qui permet de cheminer. Pour moi, il est important d'être en route.
Voilà. Bon, écoutez, on va faire une deuxième pause et puis après, peut-être vous allez nous raconter chacun ce que vous avez vécu et surtout peut-être, puisqu'on n'a pas eu le temps d'en parler, comment est-ce qu'on essaye d'inclure les proches, quel peut être le rôle d'accompagnement des familles? Est-ce que c'est une étape obligée? Et si oui, comment gérer ça, on va dire, de manière la plus délicate et constructive possible? Voilà, donc pour rappel, cette émission Vivante Église ce matin sur le thème tout simple, alcooliques, que vivent-ils ? Peut-être je peux éclairer l'intention de cette émission comme on fait sur d'autres thématiques, c'est d'essayer de, comment dire, de comprendre de l'intérieur ce que vivent certaines personnes qui ont, on veut dire, vivent des réalités considérées comme marginales pour qu'on y soit sensibilisé ou qu'on puisse mieux les comprendre ou les accompagner. Et je rappelle qu'autour du plateau, il y a donc Christophe et Dominique qui sont membres des Alcooliques Anonymes, le père Joseph Bécoq qui est membre de l'association Vie Libre et Thomas Wallenhorst, psychiatre et psychothérapeute, auteur d'un livre dont je rappellerai le titre à la fin de cette émission. Alors, comme il est de coutume dans cette émission, j'aimerais maintenant que vous nous donniez un peu vos témoignages les uns les autres. On va commencer avec vous, Christophe, avec cette règle un peu de l'avant, le pendant et l'après. Quelle était votre vie avant de connaître l'alcoolisme et qu'est-ce que vous avez vécu et comment vous en êtes sorti?
Moi, je suis issu d'une famille de trois garçons. J'étais le petit dernier. Ma rencontre avec l'alcool s'est faite une première fois à l'armée. Alors que jusqu'avant, j'étais un sportif de haut niveau et donc l'alcool ne faisait pas du tout partie de ma vie. J'ai rencontré l'alcool, j'ai consommé pendant le temps de l'armée, et puis quand je suis rentré à la maison, j'ai arrêté la consommation d'alcool, jusqu'à ce que je quitte le nid familial pour vivre ma vie d'adulte, entre guillemets. Et là, entre guillemets, j'ai pas pu supporter, et donc j'ai repris ma consommation d'alcool. Et là, j'ai rencontré une femme qui allait devenir la mère de mes enfants. Donc là, de nouveau, j'ai fait un arrêt d'alcool. Et pour une raison X et Y, je me suis séparé de cette femme. Et là, de nouveau, j'ai repris l'alcool. Et là, avec mon œil rétrospectif, pardon, j'ai vu ma consommation commencer à s'augmenter journellement. C'est-à-dire qu'au début, c'était le mercredi soir, je prenais ma cuite, et puis après, c'était le samedi et le dimanche. Et puis à la fin, le mercredi a touché le samedi, et le dimanche a touché le mercredi. Mais ça, je le vois, c'est venu vraiment petit à petit. Alors moi, je suis un peu un mauvais exemple, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé ma consommation, j'avais à peine 30 ans, et j'ai fini ma consommation, j'en avais 37. Alors c'est sûr que j'ai fait ça que pendant 7 ans, mais je peux vous dire que j'ai mis les bouchées doubles. Hein. Pendant 7 ans, j'ai consommé comme j'ai rarement consommé. En plus, donc, comme je disais tout à l'heure, j'avais rencontré une personne qui, visiblement, la consommation d'alcool n'avait pas l'air de déranger. Donc, les portes étaient encore plus ouvertes, puisque je pouvais boire et accompagner. Et jusqu'au jour où elle n'a plus supporté. Et donc, j'ai fait une première cure en ambulatoire avec mon médecin traitant. Ça n'a pas vraiment fonctionné parce que j'étais pas encore prêt pour faire ça. Et puis, donc je me suis séparé, etc. Et puis, mon patron cherchait quelqu'un pour partir en déplacement. J'étais le premier parce que justement, comme ça, j'avais personne pour me regarder ce que je faisais ou ce que je faisais pas. Et j'ai continué ma consommation d'alcool, je dirais, en crescendo.
Et alors, comment vous en êtes sorti?
Eh bien, un jour, je suis rentré parce que j'étais hébergé chez mon frère à l'époque. Je suis rentré un soir et puis qu'est-ce qui s'est passé, j'en sais rien. Je suis tombé la tête sur le volant. Mon frère, ne voyant pas me rentrer, est venu me voir. On a discuté pendant plus d'une heure. Il n'y a que lui qui se rappelle de ce qu'on a pu se dire puisque j'étais peut-être à 6 grammes d'alcool. Et dès le lendemain, j'ai décidé de trouver une solution à mon problème d'alcool. Et dès le lendemain, par l'intermédiaire de ma famille, etc., on a trouvé une cure dans la région de Montpellier. Je suis parti faire ma cure pendant 3 semaines. Et je suis ressorti, donc j'étais abstinent depuis 3 semaines, ce qui était déjà une bonne chose. Et puis, je suis rentré chez moi, et là, je me suis retrouvé face à mon problème. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est-à-dire que maintenant, je suis abstinent, mais comment je vais tenir maintenant sans boire, quoi, quelque part. Et je me suis rappelé d'une phrase de mon ex-femme qui m'avait parlé des alcooliques anonymes. Donc du coup, je suis allé à leur rencontre. Je suis allé un 29 décembre, comme quoi il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de moment pour aller pour rencontrer les alcooliques anonymes ou pour prendre sa décision pour aller mieux. Et j'ai rencontré les alcooliques anonymes. J'ai assisté à ma première réunion. Et à ma première réunion, j'ai surtout fait un système d'identification, et je crois que c'est surtout ça qui est important. C'est-à-dire qu'ils étaient tous autour de la table et ils parlaient du même problème que moi j'avais. Mais par contre, eux, ils avaient la banane et puis ils avaient l'air de bien aller. J'ai dit, moi, ça, je le veux. Et puis ils m'ont parlé aussi, tu ne bois pas pour 24 heures. Et moi, je suis reparti de ma première réunion avec ça, c'est-à-dire les 24 heures. Ils avaient tous la banane, mais ils avaient le même problème que moi. Donc j'ai persisté, j'ai continué à aller en réunion. Ça fait aujourd'hui 20 ans que je suis abstinent et que je continue à aller en réunion parce que je sais que c'est bon pour moi. Parce que ne serait-ce que si au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas forcément besoin de ça pour aller bien, j'ai besoin de transmettre ça parce que quelque part, je sais qu'il y a peut-être quelqu'un qui va souffrir et qui va peut-être avoir besoin d'un témoignage pour aller bien. Et je crois que c'est surtout ça qui est important, c'est le témoignage.
Je vois le temps qui file, donc peut-être que je suis désolé, Dominique, vous n'aurez pas forcément le temps de nous donner le vôtre, mais vous pourrez peut-être répondre à mes questions en illustrant avec votre vie. Donc il y a deux choses dont je voulais parler, ça paraît tomber sous le sens, hein, mais en tout cas, vous en parlez à l'instant, c'est l'importance donc, de ce qu'on appelle les buveurs guéris, c'est ça ? Enfin, en tout cas, des personnes qui sont elles-mêmes concernées. Est-ce que, en gros, il y a une fraternité qui se crée avec des gens qui ont vécu la même chose, mais qui s'en sont sortis et qui vous servent un peu d'ange moi, gardien. Est-ce que ça
moi, je dis que
je
suis alcoolique abstinent. Mais je ne suis pas alcoolique guéri. Et je crois que c'est surtout ça la grosse différence. C'est que pour avoir fait justement des rechutes, je me suis aperçu que je ne pouvais pas être guéri. Dès que je retouche un verre, je repars là où j'étais. Quoi. C'est ça le problème. Donc moi, je peux pas dire que je suis guéri. Je suis abstinent et heureux de l'être.
Des buveurs abstinents, en tout cas. Voilà. Donc c'est ça qui aide fondamentalement, c'est de fréquenter des personnes qui sont elles-mêmes des buveurs abstinents, donc qui peuvent vous comprendre dans l'intérieur et qui ont fait le chemin.
En ce qui me concerne, c'est sûr. Hein, fréquenter des gens qui ont la même expérience que moi, avec les difficultés que j'ai pu rencontrer dans la vie, et de démontrer que de fréquenter des groupes où les gens sont abstinents, c'est sûr que moi ça me maintient en vie. Ça maintient aussi surtout mon abstinence. Hein. Il n'y a pas de secret. Hein. Je veux dire que ce sont des exemples vivants qui font que moi je vais bien. Et en plus de ça, l'important surtout, c'est d'avoir reçu par l'intermédiaire des groupes et du mouvement et du programme de rétablissement, pouvoir le rendre. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je rends ce que j'ai reçu. Je vais en prison, je vais à l'hôpital, je vais partout, ça peut être dans la rue, ça peut être à n'importe quel moment. Chaque jour, je demande à ma puissance supérieure, telle que je ne la conçois pas d'ailleurs, en plus, qui me permet, moi, de pouvoir trouver des gens, pouvoir les aider, s'ils le demandent. Parce que c'est pas autrement que ça peut fonctionner. Il faut que la personne soit prête.
Alors, pour finir, j'aimerais qu'on parle du rôle des familles. Est-ce que vous pouvez nous dire, Père Joseph Bécoq, comment ça se passe à Vie Libre ? Quelle place ont les familles et comment elles peuvent accompagner les personnes qui sont concernées par l'alcoolisme ?
Alors d'abord, il faut qu'il y ait famille, parce qu'il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont délaissés par leur famille ou qui ont délaissé leur famille, qui se retrouvent seuls. Actuellement j'accompagne 4 personnes, une qui s'en sort bien, et elle était, quand je l'ai connue, il y a 2 ans, elle était au fond du trou, quoi, toute seule. Et là, maintenant, elle est en train de reconstruire une famille. Et moi, mon rôle, c'est de l'accompagner, quoi. Et même de lui dire que ce qui est en train de se passer, c'est assez extraordinaire. Et je commence à l'inviter à venir rencontrer d'autres malades avec moi, quoi.
Alors, la famille, ma question portait davantage
sur
la famille.
Oui, alors la famille, dans le mouvement Vie Libre, la famille a une place très forte. Contrairement aux alcooliques anonymes, il n'y a pas séparation dans les réunions, quoi. Parce que c'est une expérience que j'ai faite aussi. Au début que j'ai commencé à militer, il y a pas mal d'années, quand je voyais une dame ou un monsieur qui venait en me disant « mon conjoint, ma conjointe est dépendante », j'ai dit « attendez qu'elle fasse la démarche ». Maintenant j'ai dit « attention, vous avez peut-être vous aussi une démarche à avoir vis-à-vis d'elle ». Et il y a des choses qu'on peut faire, d'autres qu'il vaut mieux ne pas faire.
Bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait quand à Vie Libre vous dites que les familles en font partie, c'est-à-dire que les rencontres se font toujours
se font,
en présence.
Alors les rencontres se font ensemble. C'est aussi bien les époux, les épouses, que les enfants, même à certaines occasions, quoi. C'est tout le monde, quoi. Parce que nous disons c'est ensemble qu'on peut s'en sortir, quoi. C'est pas simplement des personnes qui sont dépendantes, mais quand on parle du soutien, c'est bien sûr le soutien du mouvement, mais c'est aussi le soutien de la famille. Et là, en réfléchissant ensemble, eh bien, ça ne fait que renforcer, quoi.
Christophe ou Dominique, dites-nous comment ça se passe du côté des alcooliques anonymes et quels conseils vous donneriez justement aux familles, peut-être, qui écoutent cette émission et qui sont concernées.
En ce qui concerne les familles, je leur dirais, rapprochez-vous du mouvement qui s'appelle les Al-Anon, qui sont, eux, plus spécialisés, justement, dans le rapport avec les familles, les conjoints, les enfants. Il y a même un mouvement qui s'appelle Alatine, qui permet aux enfants d'alcooliques de pouvoir se sortir de la problématique. Parce que nous considérons que si la personne qui a un problème d'alcool est malade, la famille est malade aussi. Elle est malade de la maladie de l'autre. Donc, le mouvement parallèle aux alcooliques anonymes, qui s'appelle les Al-Anon, je le répète, est vraiment quelque chose de très important pour la famille.
Et pourquoi est-ce qu'il y a donc une séparation, pour le coup ?
Alors, nous considérons que l'alcoolique peut se rétablir, justement, en fonction d'autres alcooliques qui ont le même message. Et souvent, quand il y a des problématiques dans la famille, je peux vous assurer que moi, si je vous raconte mon histoire, il vaut mieux que ça soit séparé. Hein, parce que d'ailleurs, en général, ce que dit les familles entre elles par rapport à l'alcoolique qui essaye de se rétablir, je peux vous dire qu'il y a des fois, ça peut être chaud. C'est très chaud même. Donc effectivement, nous avons bu, nous avons fait ce que nous avons fait, à tort certainement, mais c'est pas pour autant que lorsqu'on est sur le voie du redressement qu'il faut ressasser toujours les mêmes choses. Au contraire, on n'essaye pas d'oublier parce qu'on peut pas oublier, mais on essaye de faire ce qu'il faut pour éviter de recommencer. Et émotionnellement, de ne pas retomber dans l'alcool.
Père Joseph Bécoq, pour finir,
oui.
Et puis après.
Alors, pour ajouter à ce que vous avez dit, effectivement, dans le mouvement Vidibre, on considère que c'est toute la famille qui est malade. Hein, et que, alors, nous disons, ben, c'est ensemble, comme un, et qu'on peut essayer de surmonter cette maladie et d'essayer d'en sortir, quoi. Et c'est pour ça que, bon. Nous gardons cette dimension. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même des rencontres de femmes, par exemple, ou d'hommes abstinents à part, hein, mais qui sont assez, assez minimes. Oui.
Alors, pour finir, je donnerai donc deux sites internet. Les alcooliques anonymes, www.alcoolique-anonyme.fr, www.alcoolique-anonyme.fr, le tout au pluriel. Un numéro de téléphone aussi, 09 69 39 40 20, 09 69 39 40 20. Et puis le site internet de Vie Libre, www.vielibre.org, www.vielibre.org. Et enfin, livre cité au début de l'émission de Thomas Vallenhorst, livre Apparaître, donc l'alcoolodépendance en clair, paru aux éditions Ellipse. Merci, ou apparaître aux éditions Elib. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin, nous parler de ce sujet délicat, mais ô combien essentiel. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.